Vous êtes à l'écoute du 95.9, il est 20h passé de 2 minutes, vous retrouvez toute l'équipe dont on est là pour ça.
Point de suspension.
Minute au papillon.
Fermez les yeux.
Vous aimez mieux les disques que la radio?
As you like it, baby.
Rouvrez les yeux.
Je remets la radio si ça vous ennuie pas.
Bien sûr, vous êtes chez vous.
Pulsar.
Pulsar.
Ça, mais sans le générique de on est là pour ça, pourtant on est là pour ça,
on est bien là,
on est bien là, mais
on est quand même là pour
mais
ça.
On est quand même là, mais on est un peu triste,
oui, parce que non seulement on n'a pas notre générique, mais en plus on est seulement trois.
En plus, il pleut,
il fait pas beau,
il fait froid,
il fait tout froid.
Thomas n'est pas là,
j'ai les chaussettes mouillées.
Anthony non plus. Il reste qui?
Angélique non plus,
Emma non plus,
Ma non plus.
Bah ouais.
Ils ont tous abandonné.
C'est triste.
On va essayer quand même.
Il reste qui,
il
alors,
reste qui alors? Comment tu t'appelles toi?
Moi je m'appelle Ben.
Bonjour Ben.
Bonjour.
Et toi tu t'appelles comment?
Isabelle.
Bonjour Isabelle.
Et toi qui es à la technique ce soir, comment t'appelles-tu?
Bonsoir, moi je m'appelle Hélène.
Bonjour,
bon courage Hélène.
Merci. On continue à écouter un peu de musique puis après on parlera de choses tristes et mélancoliques.
D'accord.
N'oubliez pas que je suis à la technique.
Thank you.
c'est pas si triste du tout.
Et bah non, ça c'est même plutôt gay.
Mais ça fout la
donc,
pêche, non,
c'est Samara Balouf, c'est un groupe, je crois, qui vient de Picardie. Et ça, c'était leur premier album sorti en 2004. Et le monsieur qui présente l'émission avant, nous, là, vient de dire en voyant le disque qu'un deuxième était en train de sortir aussi. Donc, c'est
mais d'ailleurs, c'est un album live, en fait. C'est pas
oui, ouais, là,
donc peut-être qu'ils sortent un album studio, peut-être. Voilà.
C'est ça. Et c'est distribué par l'autre distribution. Voilà.
Pas la
et
même,
le
quoi.
Titre oui. S'appelle Profitez-en, Samara Balouf. Voilà.
C'est mignon. Alors, rubrique petit livre, le retour. J'avais envie de parler dans cette émission. Excusez-nous, je n'étais pas dans le ton. Rubrique petit livre. Ce soir, pour l'émission triste, on est là pour ça. J'avais envie de parler d'un truc terrible, les petits déjeuners dramatiques. Et donc, j'avais envie de parler. Bon, je vais pas rester comme ça tout le temps. J'avais envie
non, Hélène, reprends-toi.
De Rémi Cecchetto. Qui a écrit un petit livre qui s'appelle « Petit déj » aux éditions de La Tente.
Je tiens à dire aux auditeurs que c'est un vrai petit livre,
ah
contrairement
oui.
à beaucoup
oui.
de faux petits livres qui ont été présentés ici. Là, c'est un vrai petit livre.
C'est vrai, il tient dans la poche arrière d'un jean.
Exactement.
Donc, les éditions de La Tente qui sont à Bordeaux et qui est une maison d'édition associative qui s'appelle Les Cuisines de l'Immédiat, publient beaucoup de petits livres comme ça avec la couverture sérigraphiée, une publication assez soignée qui les accompagne assez souvent de lecture. Ils ont publié d'ailleurs d'autres livres de Rémi Cecchetto, un qui s'appelle Confiote. Je ne dirai rien parce que je ne l'ai pas lu. Mais ce qui est très bien dans
Petit
Déj. Il faut
de la confiote pour le petit déj.
Oui, ça se complète. Malin. Et dans Petit Déj, Rémi Cecchetto écrit à chaque fois des courts textes, on va dire c'est de la poésie en prose, ça se dit, hein. Des courts textes qui tiennent chacune sur une petite page et qui ont une ponctuation assez particulière puisqu'elle est faite non pas de virgule ou de point mais de slash, vous savez les barres slash, tac. Et donc cela donne un rythme assez haché et le thème, vous l'aurez compris, c'est le petit déjeuner. Et donc des scènes de petit déjeuner, des impressions de petit déjeuner, des rythmes de petit déjeuner, des réveils, des idées, tout ça. Tout ce qui accompagne un petit déj. Et c'est assez croustillant. C'est pour ça que j'avais envie d'en lire un extrait. Par exemple, la première page. Quant au beurre, c'est extra fin de le sortir la veille. Mieux mou, lait. Dur sur pète biscotte. S'étale que dalle sur mie. Choix même du couteau. Mou, mieux ami de la mie, plus complice de la bis ou trisse ou craque-cotte. L'est ainsi, aussi souple, désinvolte que la minette, la cocotte, qu'on aura sortie tard en dancing ou bowling. Elle s'étalera à qui mieux, dira plus aisément être notre mie, c'est extra. Par contre, la voir en vis-à-vis, au petit-déj, c'est autre chose. Surtout si elle est la cause qu'on a oublié de sortir le beurre du four. On pètera alors bis, tris ou craque-cotte et cocotte. Ses larmes saleront son café. Elle en sera malade, dira c'est à cause de vous. Alors qu'à cause du café salé, on regardera le beurre, on dira bon, c'est l'heure du boulot. Une deuxième, allez. On est d'accord. D'accord, la confiture, ça dégouline, ça passe par les trous de la tartine. D'accord, d'accord, d'accord. Mais aussi principalement, ça colle les doigts. Faut qu'on se lève, faut qu'on se lave à l'évier, faut qu'on se sèche au torchon. C'est trop de boulot sitôt. C'est misère, c'est galère. Fin des confitures à notre vie si dure. Plus de compote, plus de marmelade. Cessation de tout ça, annulation de tout ça. On verra bien postérieurement si ça fera notre bonheur. On verra bien. En attendant, cela nous fait moins de sucre dans les artères. C'est bien, ça désencombre en nous. Ça nous permet de nous souvenir que notre cœur est sucré, qu'il est une friandise qui ne colle pas. Oui, 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 qui ne colle pas. Non, non et non, il ne colle pas.
Très chouette.
C'est pas mal, hein, Rémi Cecchetto. Ouais. Pour bien commencer une journée au petit-déj. Et pour bien commencer une journée aussi au petit-déj, on en a une autre, c'est une chanson qui fout un peu plus la pêche, même pour une émission triste. Mais c'est pas mal.
I'm gonna make you mine.
Isabelle, tu riais ?
Ce n'est pas très adapté, bon.
Bah non, c'était l'émission triste, non, c'est pour ça. Triste. Émission triste, un peu ratée, pluvieuse. C'est pour ça que je n'ai pas passé la bonne chanson qu'on voulait écouter, mais c'est quand même...
Peut-être une... d'ailleurs, l'émission ratée, triste et pluvieuse, peut-être on peut parler d'un film...
Un film raté, triste et pluvieux ?
Triste et pluvieux.
Vas-y Ben, je te laisse commencer.
D'accord, parce que la position est la mienne. Non, on va parler de Into the Wild de Sean Penn. Donc, alors, on va déjà quand même se démasquer, parce que nous allons parler tous les deux avec Isabelle de Into the Wild, et nous avons été le voir au CGR.
Ah non, 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 pas moi.
Pas toi ?
Ah, non.
Moi, j'ai été le voir au CGR, donc je m'en excuse déjà platement. Mais bon, il passe nulle part ailleurs, donc voilà.
Donc, il y a peut-être un monteur parmi vous.
Voilà.
Mission lâche.
Mission lâche.
Pleureuse.
Donc, voilà. Non, mais bon.
Non, je suis allée, je l'avoue, aussi au CGR. Je suis pas une fille très conséquente.
Voilà, non, mais moi je suis déçue.
Et ça se dit promouvoir la culture indépendante.
Exactement. Ouais. Non, bon.
Donc parlez-nous donc de cette grosse de ce film à grands effets.
Oui, mais c'est exactement le terme qui convient. Donc en résumant très vite la petite trame de ce film.
Attends. Pour le résumé, je préfère parler à quelqu'un qui a aimé le film.
D'accord.
Pardon. Isabelle.
Mais alors oui. Alors il s'agit d'un jeune adulte qui, à un moment, choisit de rompre avec sa famille pour partir à l'aventure. C'est une rupture assez radicale. Alors, on a, pendant le film, quelques idées du pourquoi il veut quitter cette famille un peu oppressante, on va dire. Et voilà, du jour au lendemain, il donne toutes ses économies à une cause humanitaire, Oxfam, je crois que c'est. Il enlève tous les signes qu'il rattachait à sa vie actuelle, il déchire ses cartes de crédit, voilà, et il part. Et tout son voyage, ce sera aussi d'essayer de laisser le moins de traces possible pour qu'on le retrouve. Et son but, c'est l'Alaska. Voilà, dans une espèce de retour à la nature, mais qui n'est pas dit comme ça, qui est plutôt une recherche personnelle de ce qu'à un moment il appellera la vérité. Mais en tout cas, d'être seul, de se couper avec ce monde capitaliste, de consommation et tout ça, il y a quand même un peu ça derrière. Et cette histoire est une histoire vraie, en fait. Il y a un roman qui est paru, je crois que c'est l'auteur, il s'appelle Krakauer. Et il a aussi écrit, en fait, lui. Et on le voit d'ailleurs dans le film, plein de moments où il est en train d'écrire pour se souvenir de ce qui est en train de lui arriver et éventuellement peut-être laisser une trace plus tard. Et il part aussi dans ce voyage avec plein de, on dira, d'auteurs et d'expériences de référence. Il emmène Jack London, Sorrow, voilà. Et c'est assez important pour lui. Et d'ailleurs, l'écriture, comme ça, revient assez régulièrement dans le film. Alors, je ne sais pas trop comment dire pourquoi j'ai aimé ce film aussi. Je crois qu'il y a des choses qui m'ont agacée dans des effets qui sont un peu trop soulignés, et puis des effets vraiment de cinéma, enfin genre ralenti, accéléré, split screen et tout ça, qui sont pas toujours très bienvenus. Mais moi, je me suis vraiment attachée au parcours de cette personne. Il y a un autre truc aussi pour... vraiment pour marquer son changement de vie, il change aussi d'identité et il se fait appeler Alex Supertramp, alors qu'avant il s'appelait Christopher, je ne sais pas quoi.
Voilà.
Et oui, moi il y a vraiment, enfin je me suis vraiment attachée au parcours de ce jeune homme, et notamment dans les rencontres qu'il peut faire sur son chemin. Voilà, d'un couple, d'un autre, d'un monsieur plus âgé, qui à chaque fois lui permettent, je pense, de re-questionner son propre rapport à sa famille et ce choix d'être parti, et qu'est-ce qu'il va faire de ce voyage aussi. Et enfin, moi je trouve que c'est la partie la plus réussie, parce que dans son rapport plus personnel, qui est quand même un des enjeux du film, à la nature et à comment il se retrouve seul et qu'est-ce qu'il fait, ça me semble pas toujours aussi réussi. Voilà ce que je peux dire moi
de ce film. Parce que son rapport à la nature en plus est quand même soigneusement très très mal représenté dans le film. Il faut quand même dire
soigneusement très très mal.
Voilà. Non, mais ouais, il y a vraiment un. Moi, je pense que Sean Penn n'a pas du tout fait confiance à ces images. Alors, il fait des. Vous le repérez très vite. Il a fait des grands plans en grue, en avion, ce que vous voulez, sur les beaux paysages des États-Unis, qui sont parfois fort beaux. Hein, ne pas dénigrer ça. Mais alors, il nous fout de la musique dégueulasse tout le temps. Pas forcément dégueulasse.
Non, elle est bien la musique.
Elle est pas forcément.
Y en a trop, peut-être.
Mais elle est là tout le temps. Alors moi, j'étais super déçu de pas pouvoir écouter une seule fois cette nature. C'est-à-dire qu'il fait pas non plus du tout confiance à sa bande son.
Oui.
Et du coup, alors je sais pas s'il a eu des problèmes de son, mais alors vraiment, il en met pas. C'est-à-dire qu'on l'entend pas et on la voit tout le temps. Et de façon grandiloquente au possible, ça m'a un peu fait.
Moi, je vais juste interrompre là-dessus, Ben. Genre, je sais pas si c'est une justification, mais je me dis que c'est peut-être aussi. Enfin, voilà, toutes ces musiques, c'est aussi son passé, quoi. Enfin, je sais pas, moi, je l'ai aussi vu comme un truc de recouvrement. Certes, il essaie de se construire une nouvelle vie et tout ça, mais il y a, enfin, je sais pas, une espèce même. De culture américaine. Et
ah oui, en plus, il y a plein de musiques qui représentent des choses assez importantes dans la culture.
Il a baigné plus ou moins, qui l'envahissent quand même toujours et qui font que, en effet, je pense que, en plus, le voyage, il est finalement assez court. Là. Ce qu'on voit, c'est 2 ans. Et peut-être qu'il n'a pas encore le temps, moi, je pense, de s'échapper complètement et de rompre totalement avec ce passé. Et que la musique, elle peut peut-être avoir ce. Voilà, cette fonction-là, mais je sais pas. Hein. C'est peut-être aussi une facilité.
Ouais, moi je pense que. Ouais. Parce qu'il y a plein de musiques qui sont des références aussi à même des mouvements. Enfin, il y a des musiques assez symboliques, très symboliques des mouvements hippie ou Beat Generation, et etc. Mais du coup, à chaque fois, elle représente. Mais du coup, cet attrait pour la nature, à un moment, même quand lui se pose et qu'il a envie d'appréhender cette nature, ben nous du coup on est à côté et on n'appréhende rien du tout, si ce n'est des images laides de soleil couchant avec des chevaux qui courent, des chevaux sauvages qui courent. Enfin, je suis un peu caricatural sur le film, mais vraiment quoi, que du coup il y a beaucoup d'images clichés de cette nature et que moi à un moment je la rencontre pas du tout. Et du coup ça me permet pas d'appréhender ce que lui il aurait comme désir de rompre avec la civilisation qu'il considère comme mauvaise, etc.
Parce que finalement, le film est prisonnier d'une vision clichée ou dictée par la civilisation.
Oui, après Sean Penn, exactement. Du coup, même Sean Penn, dans les personnages, comment il montre ses rencontres avec des personnages qui sont donc des hippies, des gens qui se mettent un peu en marge, etc. Chaque personnage représente quelque chose et est très caricatural, quoi. Des couples, un couple, bon, on va pas tout raconter quand même.
Mais
hein.
C'est assez.
Et ça, c'est tout le temps très caricatural, et même ses relations avec les autres, ils redécouvrent une famille, ils redécouvrent des amis, ils redécouvrent peut-être une petite amie, ils redécouvrent. Et ça, à chaque fois, ça enchaîne, ils redécouvrent peut-être même un grand-père, enfin. Et ça, c'est assez bizarre de représenter, de rep- présenter ça comme ça, surtout que moi j'ai pas du tout l'impression que qu'on participe à cette rencontre en fait.
C'est enfin, un grand clip quoi.
Mais
enfin,
en fait,
moi je suis ouais. enfin quand même non moi enfin vraiment sur les rencontres, moi je trouve ça plutôt intéressant parce que ça questionne aussi qu'est-ce que ça peut être une famille et que voilà, alors c'est une idée peut-être un peu bateau mais que sa famille c'est pas forcément juste ses parents et que là les gens qu'il rencontre et tout, ils sont très importants pour lui, enfin dans une espèce de
dans sa construction,
de renaissance ou de reconstruction. Et ce que tu dis là de voilà des couples qu'il rencontre et tout ça et de comment d'autres personnes vivent aussi leur rapport à la nature, c'est pas inintéressant quoi, c'est peut-être pas complètement abouti, mais voilà, lui il fait le choix voilà de partir plutôt seul et d'affronter ça, il rencontre des touristes qui sont un peu couillons mais qui essaient de revivre voilà un petit retour comme ça à la nature tout en mangeant des hot dogs. Il y a des naturistes qui eux n'apparaissent vraiment que comme décor, mais on se dit ah oui bah oui, ça aussi c'est une manière d'envisager ça. L'autre couple de hippies qui eux sont un peu différents, enfin un truc un peu plus dans la vie aussi et,
ouais ça c'est vrai, mais en même temps moi par contre ça m'a dérangé de que le rap, même le rap, par contre le rapport à la littérature je le trouve pas si si intéressant que ça quoi, parce que du coup lui par exemple il lit du Tolstoï, il lit je sais plus quoi, à un moment il y a tout un passage où il lit le docteur Zhivago etc, et du Taureau etc, et même il en cite, et je trouve que c'est bizarre parce que du coup finalement les passages de dialogue les plus jolis c'est quand il cite des livres
oui
parce que sinon il est quand même pas, enfin il y a un jeu avec les dialogues qui est pas du tout à la hauteur de des références qui sont mises en avant, et ça c'est assez dérangeant de pas avoir su retransmettre ça à travers cette histoire, à travers le dialogue que lui-même essaye de façonner.
Mais il est jeune.
Il est jeune.
Enfin je veux dire, tu vois, vient avec toute cette culture et
le réalisateur est jeune ou
le héros.
Enfin je sais pas, moi je pense que c'est aussi une figure d'un voilà d'un jeune qui part avec tout ça là. Et qui aimerait être à la hauteur aussi, et peut-être que c'est pas si facile, alors il s'y raccroche, et quand il dit ça, ça a peut-être plus de poids, et qu'en effet, quand c'est ses propres paroles, c'est pas si intéressant, mais moi je suis plutôt indulgente, enfin, et avec le personnage et le film, je trouve, il y a un truc qui fonctionne, mais qui est peut-être de l'ordre, enfin, je sais pas, d'une histoire, quoi, où t'es embarqué et tu la suis volontiers, quoi.
Il faut arriver à se défaire des grands efforts. J'ai vu juste la bande-annonce, et c'est vrai que je me suis dit, zut, ça a l'air d'être une bonne idée, c'est une histoire vraie qui fait rêver, évidemment. Oui. Le grand départ, tout le monde rêve un peu de tout plaquer. Mais quand on voit déjà tant d'effets dans la bande-annonce...
Ouais,
c'est ça. C'est
c'est marrant, parce qu'on a pensé au même réalisateur, on se disait, si Clint Eastwood l'avait fait, ça aurait peut-être été un petit peu plus sobre. Enfin, parce que ça reprend certains des thèmes importants pour lui, espèce de trajet personnel un peu radical.
Trajet radical, construction, le rapport à la famille, à la société, construction même en termes de civilisation, presque, de civilisation américaine des États-Unis dans son ensemble. Et ça, c'est vrai que ça rapproche avec ça.
La suite était bien.
Voilà, mi-figue et un raisin.
Pour Into the Wild. Et à part Into the Wild, il y a aussi un autre titre en anglais.
It's a Free World.
Ah oui, on peut mettre les deux à la suite. It's a Free World, Into the Wild.
Into the Wild, yeah, maybe we can talk about that.
Vas-y, non. Ben.
Ouais, Into the Free World, le dernier film de Ken Loach, qui passe déjà depuis... qui repasse encore, en plus, vous pourrez aller le voir. Donc, dernier film de Ken Loach...
qui passe au théâtre.
Voilà, qui suit l'histoire d'une jeune femme qui se fait virer de sa compagnie de... Comment on dit
de placement,
de placement, voilà, c'est sa placement, de placement.
C'est l'intérim, mais en niveau encore
international, vraiment, de placement international des ouvriers, donc rapport, beaucoup avec l'Europe de l'Est, etc. Qui se fait virer, qui décide de monter sa petite entreprise et donc de placement dans sa petite boîte dans sa banlieue anglaise. Et c'est très très bien.
Ah, comme ça.
Parce que il y a une chose qui est assez, qui est vraiment vraiment bouleversante et que moi je trouve qu'il a très très bien réussi, c'est que d'une part Ken Loach, il s'agrippe, c'est que du coup dès le début il s'agrippe à cette femme, à son destin, et on la lâche pas et on est avec elle tout du long, et c'est très très impressionnant. Et d'une part, moi, j'ai pas vu beaucoup de films, que ça soit documentaire ou fiction, qui essayent de nous retracer comment un individu dans cette société a conscience des profonds désordres et saloperies de ce genre de système horrible, mais qui va quand même devenir un acteur pleinement engagé, c'est-à-dire qu'il prend vraiment des décisions horribles également, pour participer à ce système horrible en ayant conscience. Et cette possibilité de raconter ça de cette manière-là est assez bouleversante, en fait. Moi, ça m'a beaucoup plu.
Mais ça change un peu pour Ken Loach. D'habitude, il demande des gens qui luttent contre
le système voilà,
et qui sont des révoltés romantiques.
Exactement, ouais. Alors moi, ça m'a rappelé...
Non, il a évité plein de pièges de certains de ses derniers films. Enfin, soit dans le côté manichéen, soit le côté trop héroïque d'un personnage par rapport aux autres, enfin le bon et les méchants. Et il a même su éviter l'histoire d'amour cucu, qu'il évite rarement.
Faut quand même le dire.
Là, on s'arrête avant que ça devienne complètement... pas intéressant.
Voilà.
Avant que ça marche trop bien.
Et moi, ça m'a rappelé quand même un film, je me rappelle, enfin, du coup, parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et c'est Family Life, et du coup, cette histoire de. Du coup, ça n'a rien à voir, peut-être dans l'histoire, mais du coup, le rapport à la société, comment on s'est enfermé dedans. Mais du coup, dans sa manière de filmer, quoi. Moi, je trouve qu'il retrouve plein de ces vieux principes qu'il avait su si bien. Mettre en œuvre et qu'on fait sa reconnaissance. Et du coup, là, je trouve qu'il a retrouvé une patte filmique très très intéressante.
Oui, et je suis d'accord.
Non, mais ouais. Mais c'est moi, je trouve ça très dur de filmer, parce qu'il y a un vrai point de vue, quoi. Il y a un vrai engagement de sa part de filmer. Et en même temps, il a une vraie passion pour son personnage. Vraiment, comment il le filme, comment il essaye de décortiquer, comment il représente son personnage par rapport à l'extérieur, notamment avec des scènes en voiture ou des scènes dans son appartement. Les fenêtres jouent un rôle assez important dans ces moments-là. Il y a toujours l'intérieur, l'extérieur, elle et le monde, elle et sa famille et le monde. Et du coup, avec des moments où on est plein pot sur sa tête, et puis des moments où on a l'impression de te mettre à sa place et de zoomer très loin dans un univers horrible.
Et donc on se dit, si j'étais à sa place, est-ce que je ferais
qu'est-ce que je ferais? Comment je me place? Comment? Alors lui, il essaye pas de donner non plus, c'est horrible, on est tous obligés d'être piégés, pas du tout. Mais au contraire, l'ambiguïté de ce personnage permet de se poser une myriade de questions et de se poser à un moment ou à un autre les limites d'acceptation et... Donc d'acceptation du système, ça c'est déjà une part importante, mais aussi d'implication, vraiment, de se dire à quel moment, moi je fais des saloperies aussi énormes que ça. Et ça c'est très beau. Très dur en plus à raconter. Et lui il fait bien. Et ça c'est étonnant.
C'est dingue, parce que vous commencez par chroniquer un film qui est je plaque tout de la société, je m'en vais dans la nature et tout, c'est raté. Et le deuxième film, quel autre, c'est l'enfermement dans la société.
Oui, c'est deux parcours assez différents.
Mais ouais, comme quoi, voilà.
Mais alors, c'est triste comme film.
Non, moi, je dirais pas ça.
Non, non.
Non, non. C'est... Je sais pas, moi, je trouve ça assez... C'est un côté sincère, enfin lucide sur quand t'es confronté à quelque chose. Et puis il y a quand même un truc important, c'est qu'à un moment elle commence à gagner de l'argent, quoi. Et pour elle, enfin on sent que c'est quelqu'un pour qui c'est nécessaire et important. Et voilà, enfin quand on commence à gagner de l'argent par des méthodes de plus ou moins honnêtes. Et plus en même temps qu'on en gagne de plus en plus, jusqu'à quel point on est capable de s'arrêter pour dire non, ça va pas.
Mais ouais, en plus il y a un rapport très intéressant aussi avec un autre personnage, donc qui est des travailleurs qu'à l'emploi, et que du coup, à quel moment tu humanises ou pas les gens que t'es en train de méchamment te foutre de leur gueule. Et
à partir de quel moment tu leur redonnes leur statut, tu les considères comme des êtres humains et non pas comme des pièces de ta boîte.
Exactement. Et du coup, là, je trouve qu'il a finement joué ce rapport qui est presque amoureux et avec ce personnage, et du coup, ça permet ou pas de faire la bascule, et ça, c'est très intéressant. En plus, politiquement, c'est quand même très important parce qu'on en parlait tout à l'heure. Mais bon, c'est un truc sur les clandestins, les sans-papiers, etc. Et rappelons que...
Oui, parce que là, c'est...
Et ici aussi, on vire des sans-papiers, on détruit des familles, même dans notre chère ville de Poitiers, on le fait régulièrement.
Même autour, à Châtellerault.
Voilà,
à
Châtellerault, on le cas. Enfin, de partout, hein. Et pour respecter des quotas et des unités qu'on doit absolument respecter par... Bah oui, non, mais le, notre cher gouvernement a des unités à expédier dans leur pays où ils ne sont pas les bienvenus, et du coup, c'est...
C'est intéressant ça par rapport au premier film dont on parlait, Into the Wild, parce que souvent, Sean Penn, dans le film, on voit en image des chiffres, alors quels qu'ils soient, alors soit de l'argent, soit des chiffres qui apparaissent, soit y compris les chiffres sur une montre, où le, pour le personnage, c'est tout ce qui représente la société actuelle et qui veut fuir, quoi. Enfin, ce côté justement de
quota,
de tout mesurer, de. Et oui, elle est vraiment prise là-dedans, quoi.
Elle, l'héroïne de...
De Free World, elle en vient mesurer en termes de possible, de rentabilisation des donc du coup, ce qui ne considère plus elle comme des individus, mais comme des chiffres. On peut en mettre 4 au lieu de 8, on peut en mettre 6 au lieu de 12, etc., etc. On peut avancer comme ça.
Et puis ce qui montre aussi, c'est qu'elle est un rouage du système, quoi. Je veux dire, il y en a encore au-dessus d'elle et
elle est
compris
dépendante,
et dont elle est dépendante. Voilà. Mmh. C'est bien et moi je suis plutôt contente parce que il y a quelques films de Ken Loach récemment qui m'avaient plutôt un peu déçu ou pas trop intéressé, donc là ça fait plaisir.
Allez-y et puis manifestez pour les sans-papiers aussi.
Et mais vous allez faire comme Laura Adler si ça continue.
Exactement, Laura Adler qui m'a fait très plaisir.
Tu prends pour Laura Adler, Ben.
Exactement, m'a fait très
d'ailleurs,
plaisir.
D'ailleurs, son émission succède à la nôtre sur une autre chaîne. Mais c'est à 21h le mercredi.
Exactement. Mais la semaine dernière, elle a fait.
Bon, on va pas parler de France Culture toute la soirée. Nous sommes sur Radio Pulsar, on est là pour ça. Et on fait même des jeux de mots avec la musique.
Into the wild.
plupart des fois, lorsqu'il m'arrive de prendre part à une conversation quelconque, je regrette profondément ce que j'ai dit environ 10 minutes après être intervenu. Je me souviens de mes paroles comme d'un amalgame de contradictions, de banalités confuses, et somme toute très dérisoires.
Elle, son drame, c'est de ne pas être intelligible quand elle se met à parler de trop ce qu'elle comprend. Voilà. Alors, oh,
c'était
deux.
Vous auriez dû être là, c'est moi, j'ai failli pleurer.
Oh, c'est mignon.
C'est deux extraits de deux livres différents d'Alban Gelé, qu'Hélène et moi, on aime beaucoup.
Alban
Alors,
Gelé.
Toi, c'était quoi?
Moi, c'était L'air libre aux éditions Le Dé Bleu, l'idée bleue. Un livre de poésie en prose. C'est rigolo parce qu'on a commencé l'émission en parlant de Rémi Cecchetto qui a une ponctuation avec des slashes assez hachés. Et Alban Gelé, elle n'a pas de ponctuation du tout. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de slash, il n'y a pas de point virgule, il n'y a pas de tiret, rien. Tout est en paragraphe comme ça. Et on se prend tout comme ça. C'est super bien. Et toi, c'était quel livre?
Moi, ça s'appelle Je te nous aime. Et c'est aux éditions Chêne qui font des bien beaux livres de poésie, d'ailleurs.
C'est vrai.
Voilà.
Ça. Oh là là, quand on parle d'Alban Gelé, on est toutes chamboulées. on peut dire qu'elle, je sais pas moi, pourquoi
qui
on a
qui est-elle? Je ne connais pas Alban Gelé.
Bah, elle a à peu près notre âge,
un
je peu. Crois.
Peut-être un tout petit poil plus vieille,
ouais.
Mais pas de beaucoup. Bon, on va dire elle a une poétesse qui a la trentaine,
ouais.
Voire un peu, peut-être bien tapée, je ne sais plus. En tout cas, elle a des enfants, ça c'est sûr, parce qu'elle en parle des fois. Et je crois qu'elle habite en province.
Ouais.
Et même, je crois qu'elle est assez active dans son côté de province, qui est du côté de Saumur, si mes informations sont bonnes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui non seulement est poète, mais qui s'active pour faire connaître pas mal d'autres poètes autour d'elle, ce qui est déjà assez chouette comme démarche.
Très louable.
N'est-ce pas?
Très
bien. Et en plus, elle écrit bien et elle écrit des choses simples. C'est à peu près l'inverse de Into the Wild, ce que vous pouviez dire sur le film tout à l'heure. Enfin, surtout ce que Ben critiquait le film Into the Wild. Alban Gelé, c'est vraiment une sorte d'épure de texte et de sentiments simples et bruts. Alors peut-être des fois, ça m'est arrivé quand même, malgré que j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, de me dire à la fin, oui, bon, allez, ça suffit, les petits trucs, les petits bonheurs de rien du tout. Enfin, c'est pas vraiment les petits bonheurs de rien du tout.
Ouais.
Il y a une certaine façon qu'elle a de faire ses phrases et de souligner des petites choses qui fait quand on lit trois livres d'elle à la suite, on les savoure plus. Mais quand même, elle peut dire des choses ouais, vraiment simples et belles et nous refaire la vie toute neuve en peu de mots.
Peut-être que moi, celui-là, là, Je te nous aime, j'ai trouvé un peu différent parce que ça fonctionne sur une sorte de pseudo-dialogue puisque c'est toujours elle qui parle entre un il et une elle. Une il et un elle, je ne sais pas. Bref, comme on veut. Et voilà, du coup, ça casse peut-être un peu ce côté de ces autres textes là, plus quotidiens. Là, ça fonctionne plus ouais, dans une sorte de dialogue comme ça, donc autour de... Là, clairement, de la rencontre, de ce qui peut fonctionner ou pas dans la rencontre amoureuse, de, ouais, de la façon dont deux personnes s'approchent, en fait. Et c'est vraiment beau, ça.
C'est juste sur l'approche.
L'approche, puis le quotidien, est-ce qu'il peut aller ou pas. Mais sans, justement, sans grand détail, je dirais, quotidien. C'est plus en termes d'impression ou d'émotion, mais il n'y a pas forcément de données. Peut-être que parfois elle fait plus ça, un petit peu plus concrète ou matérielle.
Mmh.
Voilà.
Oui, des fois c'est des petits détails, voilà, vraiment nommés, un oui. Chien, une ombre, un objet. Mmh. Et c'est rigolo ce que tu me dis sur ce livre que je n'ai pas lu d'Alban Gelé, pourtant j'aime bien.
Je sais ce que tu vas dire.
Oui,
vas-y.
Alors vas-y, non, mais vas-y, mais dis-le que je vais parler de Bénédicte.
Et allez, voilà, et voilà.
Mais oui, mais si on lit les mêmes livres et si on les aime bien et qu'on se les passe, forcément ça nous y fait toutes les deux penser, forcément. Bah oui, parce que Bénédicte Heim, qui d'autre que Bénédicte Heim peut écrire La Passion Amoureuse, enfin si, plein d'autres gens, mais elle l'écrit tellement.
Oui, oui, oui.
Et elle a écrit un livre qui s'appelle Adoremus aux éditions Les Contrebandiers éditeurs, et qui est un dialogue entre il et elle, mais alors pour le coup, vachement plus trash.
Ah oui, 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 oui. Oui, oui, puis qui est dans une espèce de logorée aussi, enfin, t'as l'impression que ça peut ne jamais s'arrêter, enfin... Alors que là, c'est quand même assez épuré, mais je peux vous en lire un petit peu.
Allez, un petit peu, pour faire connaissance.
Il, plutôt doucement, est arrivé dans sa vie. Elle a sorti des vers, sans savoir au juste quoi faire d'autre. S'est trouvé bancal, dans les mots prononcés. Il a dit « On se reverra, n'est-ce pas ?» Elle n'a pas répondu. Il, derrière ses fleurs, ses nuages, est-ce qu'il se doute de ses propres trouilles ? Même pas sûr. Elle s'énerve. Il vit dehors maintenant, n'a plus besoin de ses livres. Elle, toute encombrée encore de ses bibliothèques, s'est sentie maladroite, pieds nus, sur l'herbe des montagnes. Il a fait un bruit de verre en elle, et puis elle est partie. Elle lui téléphone pour le faire rire. Il en oublie une heure ou deux ses inquiétudes. Elle, un instant, croit que tout s'éclaircit. Deux heures après, la lumière donne à l'envers. Il lui écrit en cachette de la grande personne qu'il est devenu. Il craint qu'elle se fâche à force d'insister. Il insiste quand même. Elle soupire. Elle a fait tomber quelqu'un d'un arbre. Ce n'est pas la première fois. Après tout, que font-ils dans les arbres ? Elle, maintenant, en fait quoi au juste de sa solitude ? Elle hurlait à la fenêtre que sa vie en dépendait. Quelle vie ! Il s'excuse de fatiguer les autres avec ses enthousiasmes de chaque seconde. Pas elle, vraiment. Elle, ses larmes couleraient comme de l'eau courante si elle ne les empêchait pas. Il est contre le bonheur, c'est plus simple après tout. On ne sait pas quelle bonne surprise il pourrait nous réserver. Voilà.
Pas mal.
C'est un peu ça, le ton.
C'est un peu le ton de petits détails de il et de elle. C'est vraiment tout Alban Gelino. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle ronronne pas dans son écriture.
Mais oui.
Je trouve que c'est quelqu'un qui a un rythme à elle, donc dans ce côté haché des phrases sans ponctuation, mais de deux mots bout à bout, de mots simples. Elle n'invente pas tellement de mots, enfin, contrairement à plein de poètes qui aiment bien néologiser.
Mm.
Et moi aussi, je néologise en disant ça. Mais non, elle n'est pas comme ça, elle est plutôt dans la retenue et les petits morceaux. Et une autre chose que j'aime bien dans l'air libre, qui est pour l'instant mon préféré que j'ai dans les mains, c'est que de temps en temps, elle rappelle le silence et elle dit qu'elle se tait. Mm. Entre quelques poèmes, elle dit un poème, ça ne s'écrit pas. Et elle dit, voilà, là j'en ai un sous les yeux, c'est « Je me tais parce que tout près ça parle bien, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter ».
C'est un thème qui est important dans un autre de ses livres parus aussi au Des Bleus, qui s'appelle d'ailleurs « Aucun silence, bien sûr », où vraiment elle parle de ça.
Du fait de se taire. C'est beau d'écrire pour dire qu'on se tait. Et des fois, elle écrit aussi pour dire pourquoi elle a besoin d'écrire. Et encore un autre livre que j'ai beaucoup aimé d'Alban Gelé, on va pas tous les faire quand même une soirée, peut-être un jour elle reviendra à Poitiers, parce qu'elle est déjà venue. Hein. Elle est invitée par la Maison de la Poésie à Poitiers l'an dernier. Elle est déjà venue lire ses textes et vraiment elle les lit très bien. Et c'est à cette occasion que j'avais trouvé son petit livre aux éditions Le Chat qui tousse, qui s'appelle De père en fille, et qui est très beau, où elle raconte que son père, elle l'a pas connu, parce qu'elle raconte un bout de sa vie qui est vraiment, vraiment dramatique, à savoir que ses parents ont eu un accident de voiture alors qu'elle était bébé, que son père est mort dans la voiture. Et voilà, donc ce père, elle ne l'a jamais connu, et elle s'adresse aussi un petit peu à sa fille, à son père et au père de sa fille, à travers ses poèmes. C'est très beau pour le coup. On comprend aussi ces histoires de silence, de retenue, de pas vouloir en faire trop quand c'est pas la peine, et en même temps de prendre sa plume pour écrire ce qui doit être écrit. Alban Gelé.
Voilà, c'est bien. Donc au Des Bleus, aux éditions Chêne Éditeur, et aussi un autre petit livre aux éditions Invention, qui était lui le résultat d'un atelier d'écriture et qui est assez bien, qui s'appelle Quelque, au pluriel.
Et qui était sur des habitants du quartier, du quartier Leblon. Encore un autre truc assez différent. Stieg Dagerman, Alban Gelé.
Oh, une autre fois peut-être.
On prendra le temps pour Stieg Dagerman. D'accord, on va écouter de la musique. Thank you.
d'une histoire corrompue où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire asservante de la haine et de l'oppression. Cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer, à partir de ses seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir.
Dedans. De quoi d'ailleurs ?
Ah oui, alors c'est un groupe merveilleux qui s'appelle Arca, qui est un groupe absolument génial, qui ont fait deux très très bons premiers albums.
Deux premiers albums.
Et le troisième est un peu décevant. En fait, ils avaient un principe Arca, qu'ils ont fait deux premiers albums qui s'appellent Cinématique et ensuite Angle. Et donc, ils utilisent des extraits. Donc là, on vient d'écouter des extraits du discours qu'Albert Camus avait prononcé quand il a eu son prix Nobel de littérature.
C'était ça. Discours de Suède.
Exactement. Merci, merci Isabelle.
On étudie à l'école des fois.
Moi, j'ai pas étudié grand-chose à l'école en fait. Ouais. Et donc également dans cet album, par exemple, on peut retrouver des extraits donc du Kafka de Soderbergh, de Stoker de Tarkovsky, de La Nuit du Chasseur de Lofton, de Stranger Van Paradise de Jarmusch, du Feu Follet de Louis Malle ou de La Jetée de Marker.
Donc bon,
en plus ils ont pas
intello, hein.
Ils ont pas des good shots comme on dit. Oh. Et dans Angle, on peut retrouver Kero de Kurosawa ou alors des discours d'une interview avec Francis Bacon. Et donc cette mise en place j'allais dire électro-cinématographique ou électro-vocalose, je sais pas quoi, est très intéressante puisqu'il joue avec les mots. Donc on a pu entendre par exemple dans ce mixage là qu'ils font avec le discours d'Albert Camus, la voix est pas du tout portée en avant. Ils essayent un peu de la placer très subtilement dans les nappes sonores qu'ils font avec beaucoup de guitare, etc. Ou alors sinon dans les autres, avec les autres extraits de films, c'est toujours en langue originale. Donc essayez de retrouver l'extrait de Stoker de Tarkovsky dans le film, parce que le russe c'est pas simple. Et du coup, il joue avec les sonorités des phrases, avec les sonorités des jeux des acteurs pour les replacer dans une construction musicale. Et donc, ça donne un ensemble qui est assez étonnant. Alors, c'est pas du tout nécessaire de connaître les références qu'ils utilisent pour apprécier. C'est de la musique électro, assez douce, très planante, beaucoup de boucles, de la musique parfois assez répétitive. Et ce jeu est très très joli. Et j'ai oublié de présenter Arca, c'était quand même un projet de Sylvain Chauveau et Joël Cambon.
C'est
deux Français absolument très 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 doués. Sylvain Chauveau travaille beaucoup avec d'autres projets, notamment Micro-Méga, qui est très intéressant également. Et Sylvain Chauveau s'est découvert un attrait pour le chant. et qui n'est pas forcément déplorable, mais mais le problème c'est que sur le dernier album d'Arca, eh bien, il a décidé
de
rupturer, hein, comme on peut dire, avec le principe qu'il faisait, je
de
pense.
De rompre alors.
Non, de rupturer, de rupturer avec le principe qu'il faisait, pour moi beaucoup de, pour une grande part la beauté de leur musique, et de chanter, de faire des textes et tout. Et ben c'est beaucoup moins bien. Voilà, donc j'aime pas trop. Mais par exemple, les deux premiers albums d'Arca sont très intéressants. Ils ont également des très belles, très très beaux graphiques avec des photos et des petites phrases, genre trouver la distance à son sujet. Donc les ciné.
Une vraie phrase de documentaire.
Exactement. Donc les cinéastes et documentaristes qui nous écoutent pourront voir.
Mais ils sont nombreux.
Ils sont nombreux. Et sinon, il y a une autre phrase que je vous laisse méditer, c'est « étude du mouvement indépendamment des forces qui le produisent ». Donc ça, c'est pour ceux qui ont fait de la mécanique ou des choses comme ça. Et voilà, donc c'est un très beau disque cinématique et angle de Arca. Voilà.
Et ensuite, après Arca, on va finir
on récapitule.
On va récapituler un peu.
D'accord. Alors, en partant du début, on a parlé d'un petit livre. Alors, on a écouté non pas notre générique, pas de Brigitte Fontaine aujourd'hui. Nous avons écouté Samara
Malouf.
C'est ça.
Chez l'autre distribution. Ensuite, nous avons parlé de Petit Déj, un livre de Rémi Cecchetto aux éditions de La Tente, édité à Bordeaux. Nous n'avons pas écouté Les Pionniers de l'Aéropostale car je me suis trompée de titre sur le très bon CD La Cuisine des Ateliers. Donc, c'était
la prochaine fois.
Road of Romance à la place. Ensuite, vous aviez évoqué deux films, un raté, un réussi. Ça dépend
non,
du goût.
Non, pas. Voilà. Into the Wild de Sean Penn.
Où on n'est pas tout à fait d'accord.
Voilà, on n'est pas d'accord. Et It's a Free World de Ken Loach, on est beaucoup plus d'accord.
C'est moins marrant.
Qui repasse encore d'ailleurs.
Oui, qui passe toujours au théâtre. Et l'autre ailleurs.
Ailleurs, chez les autres.
Ensuite, petit jeu de mots, nous avons passé Into the White des Pixies, évidemment.
Waouh, élève.
Qu'est-ce qu'on s'amuse.
C'est trop fort.
C'est devait être une émission triste, mais on n'a pas réussi.
Non, c'est très bien.
Mais pour faire un peu mélancolique quand même, on s'est dit qu'on allait parler de poésie, donc lire un petit peu Alban Gellé, qui n'est pas mélancolique, raté pour la tristesse,
ouais.
Mais c'était tellement beau. Alban Gellé qui a fait des livres aux éditions Le Dé Bleu, L'Air Libre, Aucun Silence, enfin les titres ouais. C'est L'Air Libre, Aucun Silence bien sûr, et Isabelle tu as lu aussi Je te...
Nous aime aux éditions Chêne.
Ensuite nous avons écouté Arca, 1957, l'album Cinématique. Et Cinématique et Angle, les deux premiers albums d'Arca sont sortis chez les Disques du Soleil et de l'Acier. Très beau nom. Et le dernier album, On ne distinguait plus les têtes, est chez Ici et d'ailleurs, mais il est beaucoup moins bien. Donc allez chercher sur le site internet des Disques du Soleil et de l'Acier pour vous procurer les deux premiers albums.
Et
pour
ensuite,
conclure,
pour finir...
on va écouter un morceau de Colin, de son vrai nom Cécile Scott, qui est une Française, qui habite en France, du moins. Et on va écouter un morceau de son premier album, c'est de Everyone Alive Won't Answer.
Alors, elle fait semblant d'être anglaise.
Yeah.
Déjà, elle
s'appelle Colin.
C-O-2-L-I-I-N.
Yeah. Et donc, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup également, qui travaille entre l'électro et la musique acoustique. Et qui fait donc ses premiers albums à sampler des choses qu'elle aimait bien, de violon, violoncelle, de petites boîtes, etc. Et en live, elle a tous les lives qu'elle a fait, elle voulait uniquement refaire les morceaux avec des vrais instruments. Donc c'était très compliqué. Et elle s'est entourée de plein de gens, elle a commencé à jouer, elle a pris beaucoup d'instruments en très peu de temps. Et elle refaisait tous ses lives, donc des morceaux très complexes et de boucles, etc., avec ses instruments. Et donc voilà. Et après, elle a fait d'autres morceaux, d'autres albums, avec notamment que des boîtes à musique qui s'appellent Colin et les boîtes à musique, etc. Et voilà, le premier morceau éponyme de Everyone Alive Won't Answer de Colin.
De Colin. Et on est là pour ça avec Isabelle, Ben et Hélène. On se retrouve peut-être la semaine prochaine si vous nous réclamez. Après nous, il y a Indépendance et un peu de nouvelles entre les deux. En attendant, Colin.
À bientôt. Thank you.
prochain pour un nouvel épisode de On est là pour ça. Et avant l'indépendance, les infos.
Tout ça. Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal.
Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal.